Je viens pas d'un milieu où ma famille a un très grand réseau, ma famille est pas dans le business. Et donc en fait, quand je côtoyais au début tous ces grands entrepreneurs, ces grands investisseurs, je les voyais un peu comme des surhommes et des surfemmes. Et en fait, maintenant que je les côtoie tous les jours, je les connais très bien, je me rends compte que tous ces gens-là, ils sont exactement comme toi et moi, et comme le voisin d'à côté. Ils ont rien de plus ou de moins que nous, on a exactement les mêmes opportunités. Simplement, eux, ils savent les saisir peut-être un peu mieux que certains autres. Donc en fait, il faut surtout pas avoir peur d'aller aborder n'importe qui, quel que soit son statut et quelle que soit sa richesse et sa réussite, pour s'en inspirer. Et vous verrez que si vous les traitez d'égal à égal, vous allez apprendre plein de choses.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Corentin.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Bah écoute, ça va très bien en cette fin d'année, et toi ?
Eh ben écoute, en pleine forme aussi, effectivement, dans quelques jours, c'est les fêtes. On va en profiter justement pour fêter ça avec une nouvelle masterclass, c'est l'objectif. Corentin, je te présente très rapidement. Corentin, donc dirigeant et fondateur de Super Capital. Super Capital qui joue un rôle majeur dans le financement de startups en France et en Europe. Super Capital qui a été fondé en 2018, présente aujourd'hui plus de la moitié des deals français. À l'origine, pour fédérer une communauté de business angels, c'est aujourd'hui une réelle communauté d'investisseurs pour un financement à 360 degrés. Aujourd'hui, c'est plus de 15 collaborateurs, c'est 300 startups financées, c'est 40 millions levés et investis depuis 2018. C'est 2000 investisseurs, dont un peu plus de 1000 investisseurs actifs qui vous représentent dans votre communauté. Environ 5 milliards d'euros de valorisation totale des boîtes, boîtes dans lesquelles vous êtes investisseur. Vous en possédez évidemment une petite part de chacune. Avant ça, également, tu as travaillé en tant que journaliste, banquier d'affaires, puis entrepreneur pour différents projets, notamment la célèbre startup SoonSoonSoon. En 2017 aussi, tu commences à investir à titre personnel. Donc, on distingue bien tes investissements personnels, tes investissements professionnels via les véhicules d'investissement. Et jusqu'à aujourd'hui, à titre personnel, c'est plus de 275 000 euros investis dans plus de 55 entreprises différentes, donc avec un ticket moyen 5 000 euros. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on parle un petit peu de Super Capital. On parle aussi d'investissement. Notamment d'investissement dans les startups en France, en Europe. Parce que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, eh bien, sont pour la plupart en francophonie, en France majoritairement. Et à un moment donné ou à un autre, quand tu commences à avoir des résultats, un petit peu d'argent, tu as envie de diversifier, tu as envie d'investir, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres types de produits. Et vient le moment où tu veux commencer à investir justement dans les startups. Donc, je pense que tu es une des personnes idéales pour pouvoir en parler. Avant qu'on démarre sur ces sujets, j'ai envie de revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as débuté ton parcours comme journaliste et banquier d'affaires, on en parlait il y a quelques instants. Comment ces expériences t'ont-elles préparé à l'entrepreneuriat selon toi, et quelles sont les compétences que tu as pu en tirer, que tu appliques aujourd'hui ?
Bah écoute, ouais, c'est une question assez intéressante, parce qu'en fait, souvent, les gens se disent, tiens, c'est marrant, mais entre le journalisme et l'investissement, je vois pas de lien, tu vois. Et en fait, en réalité, il y en a pas mal. D'abord parce que j'étais journaliste dans le domaine des technologies, hein. J'étais chez Science et Vie Micro, donc je parlais à longueur de journée de technologie, d'informatique, d'innovation, etc. Et puis je voyageais aussi partout dans le monde, en Asie, en Silicon Valley, etc., au début des années 2000, où j'ai pu découvrir tout cet univers-là. Mais en fait, surtout, quand tu es journaliste, en fait, bah, tu observes le monde, tu observes ce qui se passe, et tu racontes un peu ce qui se passe, et tu essayes de mettre en avant les points intéressants de ce qui se passe. Alors moi, pour le coup, mon domaine, c'était l'innovation, mais ça peut être n'importe quoi. Et donc, en fait, quand tu es investisseur et quand tu es surtout à la tête, comme moi, d'une communauté d'investisseurs, bah en fait, ton rôle, c'est le même, ton job, c'est le même. C'est de raconter à tous ces investisseurs, bah les gars, voilà les innovations que j'ai vues récemment, voilà les boîtes intéressantes que je vois récemment sur le marché. Voilà pourquoi je pense qu'elles sont intéressantes, pertinentes, voilà les chiffres, voilà ce qu'ils font, voilà les équipes, etc. Finalement, c'est presque un peu un travail de documentaliste, d'intervieweur, d'aller chercher des datas et de les mettre en forme, de les marketer entre guillemets et de les vendre en fait à des investisseurs. Alors, quand j'étais journaliste, je les vendais évidemment pas à des investisseurs, je les vendais entre guillemets à des lecteurs qui s'intéressaient à ce qui se passait. Et moi, aujourd'hui, je fais la même chose, mais je raconte pas seulement une histoire, je raconte une histoire pour que des investisseurs et des gens comme toi et moi puissent investir dans des startups et participer en fait à cet écosystème tech qui a vraiment émergé en Californie dans les années 2000 et en France dans les années 2010 et maintenant.
Ouais, complètement, je vois, oui, un vrai travail d'investigation aussi finalement, ta capacité à regrouper les informations, identifier les bonnes, les moins bonnes, et réussir derrière ensuite à les transmettre collectivement à ta communauté. Et justement, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, mais quand tu fais une analyse et quand tu dois justement faire cette investigation pour pouvoir savoir si déjà tu vas investir, vous allez investir et puis la proposer à la communauté, quels sont les différents points clés que tu prends en considération pour aller chercher les bonnes informations et puis ensuite eh bien, déterminer si cette information ou une autre est plus capitale qu'une autre?
En fait, il y a un point qui revient toujours quand tu parles à des investisseurs comme moi en startup early stage, c'est l'équipe. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des équipes de fondateurs qui sont en fait en adéquation avec le projet qu'ils ont créé. Est-ce qu'on pense que ces gens-là, ce sont les meilleures personnes pour arriver à craquer le problème, à résoudre un problème avec ce mix, comme je dis toujours, d'ambition et de résilience? Et ça, c'est hyper difficile parce qu'il faut savoir, il faut arriver à comprendre si l'équipe que tu as en face de toi, elle va pas s'arrêter au premier problème. Elle va se prendre, parce que quand tu es entrepreneur, tu te prends 10 murs ou 100 murs par année de boîte. Et donc, en fait, évidemment, on veut surtout pas des entrepreneurs qui vont s'arrêter à la première difficulté. On veut des entrepreneurs qui arrivent à être résilients et qui restent sur le long terme et surtout qui arrivent à apprendre et à progresser. Et ça, en fait, c'est un peu le plus difficile, je pense, dans notre métier de deviner et de trouver ça, parce que en fait, c'est pas avec simplement, c'est difficile en fait avec deux visios de 30 minutes avec les fondateurs de comprendre ça et d'être sûr de ça. Donc en fait, ce qu'on peut faire souvent, c'est se renseigner un peu sur le background de ces gens-là en appelant des clients, en appelant d'autres investisseurs, en appelant leurs anciens boss dans des boîtes où ils étaient salariés, etc., pour se faire une image, pour se faire une idée de la qualité en fait personnelle de ces personnes-là, en se disant, ok, est-ce que ce sont des personnes fiables? Est-ce que ce sont des personnes dont l'entourage dit elles sont fiables, je les suivrais si je pouvais, j'investirais, etc. C'est tout un faisceau d'indices comme ça dont il faut qu'on s'assure. Et après, évidemment, en plus de ça, on va regarder, est-ce que le business model, il est solide? Est-ce que les chiffres, ils sont solides? Et est-ce que c'est le bon moment pour nous d'investir? Est-ce qu'on n'arrive pas trop tard à une valorisation trop élevée? Est-ce qu'on est au bon moment? Et qui d'autre, qui sont les autres investisseurs qui participent autour de table également?
Ouais.
Voilà, ça c'est un peu les trois sujets principaux qu'on regarde.
Complètement, tu as spécifié deux choses qui sont clés et que je veux remettre en évidence, c'est que tu évoques le fait que vous investissez essentiellement en early stage, qui veut dire au tout départ, au démarrage justement de la boîte et dans les premiers stages de levée de fonds, voire le premier stage de levée de fonds. Et c'est pour cette raison que l'équipe est un point capital pour pouvoir investir. Elle l'est à toutes les étapes, mais elle l'est encore plus à celle-ci. Et justement, dans un monde où on sait tous que réussir à recruter les bonnes personnes, instaurer une bonne culture, fédérer son équipe, avoir des A-players, mettre en place des process, aller chercher l'efficience, faire le petit extra mile, ce qui va faire vraiment la différence à chaque fois, l'équipe est clé pour 100% des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient dans une optique de levée ou dans une optique de bootstrap et faire du gros résultat. Toi, est-ce que tu as identifié et trigger des choses spécifiques qui font qu'une équipe est solide et complémentaire? Et j'insiste sur le mot équipe parce que finalement, il y a une distinction aussi entre simplement l'équipe et le ou les fondeurs. Parce que c'est pas finalement uniquement le ou les fondeurs, mais c'est aussi l'équipe qui fait vraiment la différence. Si tu me rejoins pas sur ce propos, contredis-moi avec grand plaisir, comme ça on en parle. Mais toi, est-ce que tu as trigger des éléments qui font qu'une équipe est solide, une équipe est viable et une équipe va durer Parce que finalement, quand tu investis, d'autant plus en early stage, c'est pas forcément pour pouvoir faire une plus-value sous 6 mois ou 1 an. C'est souvent en ayant une optique de pouvoir aller chercher des très belles plus-values, mais sur plusieurs années.
Oui, bien sûr, exactement. Quand on rentre dans une boîte, dans mon monde, généralement, on n'en sort qu'au bout de 5-6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans même. Hein. J'étais ce matin avec un entrepreneur, ça fait 10 ans qu'il a des business angels à son capital. Ça marche très bien, la boîte, mais bon, c'est vrai qu'il y a un moment, les business angels, ils veulent de la liquidité, quoi. Mmh. Donc ça, c'est aussi un problème pour nous. Mais sur la question de l'équipe et des fondateurs, je pense qu'effectivement, donc, nous, comme on n'investit que dans la tech, dans le digital, il faut forcément un couple qui soit un business guy et un tech guy, je pense. Parce que c'est difficile d'avoir, en fait, en tout cas en France, c'est difficile d'avoir un tech guy qui est aussi bon en business. Aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plus facile d'avoir des tech guys, des designer guys, etc., qui sont aussi, qui ont aussi du business dans le sang. En France, j'ai l'impression que c'est plus difficile. Tu as de très bons ingénieurs en France, évidemment, mais ils ne sont pas toujours très bons en commerce, en business. Et évidemment, bah, les business guys, ce n'est pas eux qui vont développer une architecture informatique. Donc, ce couple un peu, il est important. Et après, dans les équipes, effectivement, le point est intéressant, ce que tu dis. Les équipes, en fait, elles sont amenées à énormément évoluer en startup. Ce qui compte, je pense, c'est un peu la couche de management intermédiaire qui est souvent d'ailleurs incentivée au capital. Hein. Les fondateurs vont partager une partie du capital avec eux. En France, on appelle ça les BSPCE. Donc, c'est des actions gratuites, en gros, hein, c'est comme des stock options. Et ça, c'est des profils qui vont devoir sécuriser avec ces stock options, les garder sur le très long terme. Et ensuite, c'est ce management intermédiaire qui sera responsable de recruter les équipes en dessous et dérouler, évidemment, la vision du management des fondateurs. Donc, en fait, il y a 3 strates dans une startup qui devient une scale-up. Et ces 3 strates, elles bougent en permanence, elles sont toutes les 3 dynamiques. C'est-à-dire que les fondateurs, au début, ils font des tâches, mais ces tâches-là, elles évoluent énormément avec la taille de la société. En fait, dans l'aventure entrepreneuriale, au tout début, la première année, bah, tu vas faire un peu tout et n'importe quoi, les tâches, c'est un peu flou, la répartition des tâches, elle est un peu floue souvent. Et finalement, tu vas de plus en plus affiner les tâches de chacun. Et ça, c'est vrai pour les fondateurs, c'est vrai pour aussi managers intermédiaires, et c'est vrai pour les équipes. Donc en fait, tout ça finalement, entre la première année d'existence d'une startup et la vitesse de croisière, le rythme de croisière d'une startup, on va dire au bout de 4, 5, 6 ans, eh ben, je pense que les tâches n'ont absolument rien à voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut absolument privilégier des gens qui sont bons pour apprendre et pour progresser. Parce que, en fait, c'est ça qu'on recherche. C'est des gens qui sont capables de s'adapter parce que les business models, ils sont mouvants, parce que les marchés, ils sont mouvants et parce qu'effectivement, une startup, ça ne se pilote pas comme un grand groupe qui est dans le business depuis 100 ans. Un grand groupe ou même une belle PME qui est dans le business depuis 100 ans, bah, finalement, chaque année, ça roule. C'est pas forcément plus difficile ou moins difficile. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est des compétences qui sont différentes. Une boîte qui est là sur le marché depuis 100 ans, bah chaque année, en fait, les enjeux, ça va être de grappiller quelques petites parts de marché, peut-être à la concurrence, mais la concurrence, c'est toujours la même depuis des années, on la connaît très bien. C'est de réduire quelques coûts, de se poser des bonnes questions pour aller ouvrir un marché, etc. Alors qu'en startup, en fait, chaque mois, on va remettre en question son pricing, son business model, ses équipes, parce que des nouveaux entrants arrivent, parce que on voit bien que on a réussi pendant quelques mois, mais c'était finalement un coup de chance, et au bout de quelques mois, on se rend compte que le marché, il est pas si gros qu'on pensait. Enfin, il y a tellement de questions au début, et tu sais, il y a souvent ce truc que l'on dit, mais qui est très vrai, qui est généralement, soit on est bon pour faire émerger un projet from scratch de 0 à 1, d'ailleurs, moi, je me range plutôt dans ce cas-là. Soit on est bon pour ensuite passer de 1 à 10 ou de 1 à 100. On est très dans les process, dans le management, etc. Et là, je pense que moi, je suis moins bon, mais je suis entouré de gens et d'associés, pour le coup, qui sont meilleurs que moi là-dessus. Et il faut, je pense, être en fait très lucide et clair sur dans quoi on est bon et dans quoi on est moins bon. Et je pense qu'il faut se concentrer sur les zones de talent, sur ces zones de force, et évidemment s'entourer de gens bien meilleurs que soi là où on est moins bon.
Ouais, complètement, je te rejoins. Je te rejoins, et vraiment le point clé que tu évoques ici où je suis 100% d'accord, c'est amplifier vos forces et essayer de combler ou annihiler vos faiblesses. Ne vous concentrez absolument pas dessus. Allez chercher le 200% de votre 100% actuel, mais n'essayez pas de chercher le 50%, le 80% de votre 20% actuel. C'est capital. Je reviens sur ton parcours rapidement. Après donc avoir cumulé différentes expériences, journaliste, banquier d'affaires, etc., tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Et ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à tout arrêter pour lancer Super Capital?
En réalité, l'entrepreneuriat, j'y suis venu un peu comme ça, de manière naturelle, sans savoir vraiment que j'entreprenais, parce que dès l'adolescence, en fait, vers 15-16 ans, j'avais déjà créé un premier petit business. Alors, ça ne me rapportait pas grand-chose, etc., mais c'était quand même un premier succès parce que c'était un site média sur les jeux vidéo. Le succès, à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, ce n'était pas combien d'argent je gagnais, mais c'était les éditeurs de jeux vidéo qui m'envoyaient leurs jeux vidéo gratos pour les tester. Ça, c'est quand tu as 15 ans, c'est génial. Et c'était les quelques centaines d'euros par mois qu'on pouvait gagner avec les publicités, les bandeaux publicitaires sur le site, tu vois. Et ça, je te parle d'une époque, c'était en 98-19. Donc moi j'avais 15-16 ans, 14-15 ans. J'avais fait ça, mais pour moi c'était un projet et j'avais jamais compris dans ma tête avant mes au moins 25 ans, donc 10 ans plus tard, que c'était de l'entrepreneuriat. Pour moi c'était un projet que j'avais fait qui était cool avec des gens que j'avais rencontrés sur internet, mais c'était tout. Et en fait, j'ai toujours eu en fait ce mindset entrepreneurial, mais sans trop le savoir, sans trop le réaliser, parce que j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille ni autour de moi, etc. Donc je savais pas vraiment qu'on pouvait, vraiment faire du business comme ça. Et surtout, je savais pas que ma vie, ça pouvait être, elle pouvait tourner autour de ça. J'ai fait toutes les familles, enfin la plupart des familles poussent les enfants à faire des études et leur disent tu vas faire des études, comme ça tu vas trouver un bon travail avec un bon salaire, un CDI, quoi, tu vois. Et mon père, il a fait une très belle carrière dans une multinationale, et voilà. Et pour le coup, mes parents sont hyper ouverts et m'ont jamais imposé de choses, mais c'était un peu l'ordre normal des choses que de faire des études et après d'aller faire une carrière. Qui dit carrière dit salariat. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tous ces petits projets, ces side projects un peu que je faisais, donc ce premier site critique de jeux vidéo, le deuxième site quelques années plus tard qui était des sites sur les brunchs où j'ai commencé un peu à monétiser tous ces trucs en étant affilié de la fourchette à l'époque, etc. en mettant un peu des pubs et tout, en commençant à générer quelques milliers d'euros par mois. Et en fait j'ai commencé à me dire, mais attends, en fait j'arrive à gagner autant que mon salaire de mon activité principale, donc en fait pourquoi je me mettrais pas full time là-dessus? Et donc c'est un peu ce que j'ai fait, puisque quand j'étais banquier d'affaires, je gagnais à peu près la même chose à côté avec mes sites de contenu et sites de contenu que j'ai vendus pour ensuite créer un autre business, etc. Et donc en fait ça s'est fait un peu naturellement, mais et j'ai jamais eu vraiment de plan à la base de créer d'être entrepreneur, tu vois. Je le suis devenu un peu comme ça, mais en fait au bout d'un moment, quand tu vois que tu fais des business, ça marche, etc., tu te dis, mais en fait pourquoi je vais, enfin jamais je vais revenir en arrière, quoi. Je suis libre, je fais ce que je veux, je gagne ma vie, etc. T'es un peu, alors après c'est un peu dangereux parce que t'es un peu prisonnier, parce que le jour où tes business ça marche moins, clairement c'est difficile de retourner en arrière, retourner salarié sur le marché du travail et tout. Donc t'es un peu obligé ensuite de réussir et de continuer à être entrepreneur. Moi ça me va très bien aujourd'hui, peut-être qu'un jour j'aurai plus de ce mindset là, je sais pas, tu vois.
Ouais, complètement. Et si on revient à Super Capital, aujourd'hui Super Capital est distingué justement, est connu pardon, pour se distinguer par son approche 360 du financement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette stratégie se traduit concrètement dans les services que vous proposez aujourd'hui aux startups, en tout cas la démarche que vous avez avec les startups?
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Ouais, bien sûr, effectivement, on a un modèle assez hybride et assez à part dans le paysage des startups, des investisseurs, des fonds, etc. En fait, nous, donc on est avant tout une grande communauté d'investisseurs. Donc, on est un peu plus de 1000 investisseurs actifs qui avons déjà investi au moins un ticket dans une de nos boîtes qu'on a sélectionnées ou un de nos véhicules d'investissement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait, avec les entrepreneurs, avec les boîtes, soit on investit chez elles avec nos véhicules collectifs, soit on fait co-investir nos business angels, nos membres de la communauté avec nous dans ces boîtes. Et ce qu'on peut également faire, c'est amener ces entrepreneurs, aider ces entrepreneurs à aller chercher de la dette en plus du capital. Parce que nous, quand on investit, c'est ce qu'on appelle du capital, de l'equity. Mais en fait, dans le financement des boîtes, il n'y a pas que l'equity dans la vie, il n'y a pas que le capital, il y a aussi la dette. Et donc, en fait, on s'est rendu compte et on a rencontré, en fait, sur notre chemin entrepreneurial, un mec qui est extraordinaire, qui s'appelle Fred Beck, qui est un autodidacte complet et qui a été DAF de grosses boîtes tout en étant autodidacte. Donc, il a gravi un peu les échelons un à un. Et lui, c'est un spécialiste de la dette. Et donc, il y a 2-3 ans, en 2021, on s'est dit, en fait, Fred, joignons nos forces. Et plutôt que faire que de l'investissement en capital, proposons aux entrepreneurs de leur dire « Ok, vous venez, on vous lève du capital avec nos business angels, on investit avec notre véhicule, mais on vous aide aussi à aller parler aux banques, parler à la BPI, parler à des fonds de dette. Et on peut aussi leur mettre à disposition un jour par semaine, deux jours par semaine ou plus, un DAF à temps partagé. » Parce que c'est des boîtes qui n'ont pas forcément les moyens ni le temps nécessaire pour embaucher un DAF à temps plein, un directeur financier à temps plein. Donc nous, on va leur proposer ce service d'avoir quelqu'un de très chevronné, très expérimenté, mais une ou deux journées par semaine, parce qu'au début, ça suffit pour une startup. Donc on va leur proposer ça, on va leur proposer de faire un business plan solide pour aller voir des banques, on va leur proposer d'aller lever des subventions françaises, européennes. Tu sais, en Europe, en France, on a plein de subventions pour le business, on peut aller les chercher, le crédit d'impôt recherche, etc., etc. Donc, toute cette approche, c'est de dire, ok, toi, t'es entrepreneur, la finance, c'est pas forcément ton truc, nous, c'est notre truc, et donc on va t'aider, effectivement, comme tu l'as très bien dit, à 360 degrés, pour aller chercher du capital, de la dette, tout ce qui tourne autour de tes besoins financiers.
Ouais. Et une question que je me pose, c'est que parfois j'identifie, moi, en accompagnant des entrepreneurs depuis maintenant plusieurs années, qu'à un moment donné, tu te dis je veux de la croissance, et tu identifies donc des leviers pour pouvoir aller chercher la croissance. Face à ces leviers, donc tu identifies des coûts, parce que tu vas devoir investir, que ce soit en visibilité, que ce soit en notoriété, que ce soit en ressources humaines, que ce soit créer une nouvelle business unit ou d'autres choses. Et puis, en fait, tu te rends compte que à terme, soit en faisant l'erreur, soit en étant accompagné par des personnes qui, eh bien, ont plus d'expérience, qu'en fait, tu te fourvoies et que peut-être tu n'as pas forcément besoin de te financer à cette hauteur-là ou que tu n'as pas forcément besoin de te financer tout court, parce que tu aurais pu très bien créer une business unit et donc aller chercher du cash flow et donc bootstrap ta croissance via ce levier-là plutôt que d'aller chercher du financement. Est-ce que vous accompagnez les entreprises de cette façon-là aussi, parce que vous avez une expertise métier globale de l'accompagnement, j'imagine aujourd'hui, qui s'est créé, ne serait-ce qu'en exerçant. Et le cas échéant, comment est-ce que vous communiquez à des défendeurs, qu'ils soient plusieurs ou qu'ils soient seuls, écoute, non, tu vas pas avoir besoin peut-être de 250 ici, mais tu vas avoir besoin peut-être que de 100. Tu vas pas avoir besoin de 250, tu vas avoir besoin de 500 si c'est le contraire qui se produit. Et dans quelle mesure finalement vos conseils peuvent s'appliquer, parce que j'imagine que compte tenu du fait que vous investissez, vous mettez des billes dans ces boîtes, vous, votre intérêt, c'est pas uniquement de financer, c'est aussi de rendre efficace, de rendre pérenne et de créer justement de la performance au sein de ces boîtes.
Oui, tu as tout à fait raison. En fait, ça, ça fait partie d'abord de notre expertise, comme tu l'as dit, de dire, OK, t'as pas besoin de 100K, t'as besoin de 300, t'as pas besoin de 500, t'as besoin de 100, t'as pas besoin de lever autant d'equity, de capital, mais fais plutôt la moitié en capital, la moitié en dette, etc. Ça, ça fait partie de notre expertise.
Okay.
Parce qu'on voit passer plein de projets, tu vois, évidemment, tous les jours de l'année. Mais en fait, si tu veux, nous, ce qu'on dit, d'abord, il faut comprendre que nous, on reçoit... comme tout investisseur un peu connu, hein, beaucoup de dossiers. Donc, on n'est pas, si tu veux, en recherche spécifique de dossiers. Hein, on en a beaucoup, des opportunités sur le marché. Et donc, en fait, on ne va pas lever de l'argent pour lever de l'argent ou investir pour investir. Ce que l'on dit aux entrepreneurs, moi, mon discours, c'est toujours le même. C'est de leur dire, les gars ou les filles, si vous pensez pouvoir y arriver sans lever des fonds, mais ne levez surtout pas de fonds. Très franchement, c'est quoi l'intérêt de te diluer si tu penses que tu peux faire la même chose sans te diluer? Honnêtement, c'est juste pour avoir un article dans la presse en disant « machin a levé 10 millions, c'est bien pour ton ego 5 minutes, mais c'est tout ». Donc très honnêtement, moi je dis, je suis le premier à dire, si ta boîte elle marche super bien, si t'es cash flow positif et si aujourd'hui ton acquisition de nouveaux clients elle est suffisante, etc., mais ne lève surtout pas. À la limite, va chercher un peu de dette, etc. Et d'ailleurs, nous, on pousse à faire ça, mais ne lève surtout pas. Pourquoi, en fait, c'est quoi les raisons de lever pour les gens? C'est soit un projet qui te dépasse complètement en termes de moyens, c'est-à-dire tu dois développer une techno extrêmement forte, solide, qui nécessite de la recherche et développement sur des années, et tu n'as pas ce cash-là, parce que de la recherche et développement sur des années, c'est des millions d'euros. Donc, effectivement, là, tu es obligé d'aller lever de l'argent, OK? Ou alors, tu as un business qui est en train de tellement exploser à la hausse que bah, il va falloir recruter massivement, il va falloir aller vite, il va falloir mettre en place des ressources, etc. Et là, pour le coup, bah, c'est important et intéressant de lever de l'argent parce que gérer une hypercroissance, c'est très difficile. C'est très, très difficile et ça peut être très dangereux. On l'a vu récemment dans la presse, il y a pas mal de boîtes qui se sont crashées en ce moment-là, fin 2023, qui sont en train de se crasher parce qu'elles n'ont pas su gérer l'hypercroissance et surtout ce qu'on appelle le cash burn, donc la consommation de cash chaque mois. Donc oui, si tu as de la R&D à financer ou si tu es déjà en hypercroissance, oui, lève des fonds, c'est bien. Ou encore, si tu vois que c'est un marché extrêmement compétitif et qu'en face, ils ont levé des sommes folles et qu'effectivement, tu n'y arriveras pas si toi, tu ne lèves pas aussi beaucoup d'argent, effectivement, vas-y. En fait, si tu veux, il faut voir la levée de fonds comme simplement du carburant à un moment, à un instant T. C'est-à-dire, tu vois, la Formule 1 sur son circuit, elle avance super vite. Et ça, c'est ta boîte et tu dois avoir comme objectif d'être une Formule 1 avec ta boîte, d'avancer super, super, super vite. Et à un moment sur le circuit, il y a des mecs qui, en 15 secondes, te changent les pneus ou te font le plein de carburant. Il faut juste voir la levée de fonds comme ces gars-là, qui vont t'aider ponctuellement à repartir dans ta vitesse très, très, très rapide et très haute. Mmh. Et ce qui compte, c'est business first, c'est le business avant tout, c'est toi. Et juste la levée de fonds, c'est juste du carburant. Alors certes, c'est difficile de lever des fonds, c'est difficile de convaincre des investisseurs, etc. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue, et ça, souvent, il y a des entrepreneurs qui perdent ça de vue. Ce qui est important, c'est de trouver des clients, de vendre et d'être rentable intrinsèquement. Une fois que tu as ça, tu as une machine solide. Après, OK, mets du carburant dedans, mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas « je vais chercher ». Il y a trop d'entrepreneurs qui disent « je vais lever de l'argent pour aller chercher de la croissance ». Non, va d'abord chercher de la croissance et ensuite tu lèveras du carburant pour cette croissance, la gérer et la rendre exponentielle.
Ouais, complètement. Complètement, au même titre qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent limite que les investisseurs les attendent, alors que non, ce n'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui d'ailleurs, le cash est beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile à avoir qu'il y a ça encore 2-3 ans.
C'est très, très dur en ce moment. Fin 2023, toute l'année 2023 a été terrible pour le financement. L'année 2024 va être terrible encore. Cash is king. Ça veut dire que c'est très dur de lever de l'argent. Les valorisations ont baissé. Le pouvoir est à la main des investisseurs alors qu'il était à la main des entrepreneurs il y a 2 ans. Le marché s'est clairement retourné, hein, comme, comme un marché immobilier peut se retourner, comme plein de marchés peuvent se retourner. Ça repartira évidemment un jour, on ne sait pas quand, mais effectivement, tu as raison, en ce moment, même les entrepreneurs très brillants, très successful, des repeat entrepreneurs, etc., certains finalement arrivent à lever moins que ce qu'ils pensaient.
Ouais, complètement. Avant qu'on parle justement de tes investissements, ton expérience personnelle, qu'on partage quelques conseils aussi à celles et ceux qui nous écoutent, pour quelqu'un qui est complètement nouveau dans le domaine de l'investissement, mais qui est intéressé d'investir ou même d'intégrer Supercapital, comment ça se passe finalement? Quel est le processus d'entrée? Parce que tu sais, pour beaucoup, les gens perçoivent l'investissement, notamment dans les startups, comme étant une sorte de monde un petit peu flou, nébuleux, inaccessible, uniquement réservé à quelques élitistes qui disposent d'un réseau qu'ils ont construit depuis des générations et des générations, et que tous les bons deals finalement leur passent sous le nez et qu'ils peuvent rentrer qu'au dernier moment ou quand c'est plus intéressant, ou alors ils vont simplement même pas essayer de le faire parce qu'ils se disent qu'il faut absolument avoir des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros à investir, sans quoi ça ne sert à rien. Or, on sait tous les deux que lorsqu'on s'intéresse un petit peu à l'écosystème et qu'on a envie de commencer à investir, on est loin du compte. Donc, pour casser un petit peu cette croyance et permettre à celles et ceux qui nous écoutent de se dire « Ah ouais, ok, en fait, c'est plus simple que je pensais et je peux éventuellement commencer à allouer quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros par an à de l'investissement dans les stages dans les startups », comment faire ?
Alors, tout ce que tu as dit, c'était absolument la vérité. C'était 100% de la vérité pendant des décennies. Il fallait des très gros tickets minimum pour rentrer, il fallait les bons réseaux, il fallait être dans un quartier à Paris, etc. etc. Et c'était franchement inaccessible à 99% des gens. Aujourd'hui, depuis 2019-2020, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a vu qu'il y a eu plein de succès entrepreneuriaux et plein de succès d'investisseurs privés, de business angels. Donc, ça a donné envie à plein de gens de venir. Donc, il y a une certaine partie des gens qui ont réussi à venir à entrer sur ce marché. Ensuite, les tickets minimums ont pas mal baissé. Pourquoi ? D'abord, premièrement, parce que les entrepreneurs ont commencé à accorder beaucoup plus de valeur à ce que peut apporter un investisseur en plus de son argent. Avant, ils réfléchissaient que en termes de combien il peut m'apporter en argent. Maintenant, il peut réfléchir aussi en termes de, en plus de son argent, qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Il a peut-être une forte communauté sur les réseaux sociaux et cette forte communauté, ça, il va s'en servir pour faire levier et pour peut-être aller m'acquérir des nouveaux clients. Donc finalement, son petit ticket à 3000 euros ou 5000 euros, je l'accepte parce qu'il va m'apporter des nouveaux clients ou bien parce qu'il va m'apporter une vision stratégique parce qu'il a déjà connu ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de construire dans un autre pays ou dans une autre boîte ou à une autre échelle. Tu vois, donc ça c'est hyper intéressant. Après, il y a aussi un nouveau phénomène qui date de quelques années qu'on appelle les SPV, les Special Purpose Vehicle. Ce sont des holdings qui permettent de regrouper des investisseurs et d'investir dans la boîte de l'entrepreneur. Ce qui est intéressant pour l'entrepreneur, c'est que ça lui fait une seule ligne d'investissement à gérer, un seul investisseur à gérer, le véhicule. Et dans ce véhicule, il peut y avoir 100 personnes, 100 investisseurs différents. Et donc, évidemment, chacun de ces investisseurs peut mettre un petit ticket de 2 ou 3 000 euros, alors qu'avant, il fallait mettre 20 ou 30 000 euros en direct pour rentrer dans une boîte. Et ça, c'est AngelList aux États-Unis qui a démocratisé ça. AngelList est une plateforme qui est devenue plus qu'une licorne, valorisée plusieurs milliards, qui est une boîte qui marche très fort et qui a eu une approche du marché hyper intéressante. Elle a dit, en gros, ce monde du business angel et de l'investissement en startup, il fonctionne par communauté. Et donc, on va recréer des communautés en ligne sur la plateforme AngelList. Et ça a été le gros succès d'AngelList, c'est de dire tout un chacun, entre guillemets, tout un chacun qui est bien introduit dans l'écosystème, peut, chez nous, sur AngelList, créer sa propre communauté d'investisseurs et dire, voilà, j'ai sélectionné un deal, une société, je la partage à mon réseau, à ma communauté d'investisseurs, et chacun des investisseurs investit une petite somme, et donc ensuite, chacun est investisseur actionnaire de la cible. Et ça, AngelList a popularisé ça, a démocratisé ça entre le milieu des années 2000 et jusqu'à la fin des années 2010, 2020, etc. Et en France, on a un certain nombre d'acteurs qui ont commencé un petit peu à copier ça. Donc nous, on a été parmi les premiers en France à copier un peu ça avec Supercapital. Mais nous, on ne reste simplement qu'une seule communauté, alors que Angelist, c'est une plateforme sur laquelle il y a des centaines de communautés. Et aujourd'hui, en France, depuis quelques temps, depuis à peu près un an et demi, donc l'année 2022, il y a des acteurs comme Roundtable, donc Table Ronde, Roundtable, qui permettent justement de gérer plein de communautés d'investisseurs. Et nous, on travaille avec eux pour justement gérer notre communauté d'investisseurs, créer des véhicules d'investissement de manière rapide, avec une bonne UX, avec une bonne user experience et pour un prix vraiment très bas. Et ça, c'est vraiment des acteurs qui réussissent à démocratiser ce marché de l'investissement en startup depuis quelques années. Mais finalement, c'est très récent. Et donc, je pense qu'il va se passer dans la décennie 2020-2030 la même chose en Europe qu'il s'est passé dans la décennie 2010-2020 aux US.
Ok, complètement, ouais. Et d'où ce positionnement aussi sur l'Europe de votre côté. Revenons un petit peu dans le passé, avant même la création de Supercapital. En 2017, tu prends la décision justement de commencer à investir à titre personnel. Comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu acquis les connaissances nécessaires? Comment est-ce que tu as trouvé et sélectionné les informations pertinentes pour faire tes premiers pas en tant qu'investisseur au départ? Parce que c'est typiquement peut-être quelque chose que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, intéressé par ce podcast, se pose. Dans ton cas, comment tu as fait?
Alors, c'est marrant parce que, tu vois, 2017, c'est il y a 6 ans, donc 6 ans, c'est pas beaucoup de temps, mais en même temps, c'est une éternité dans l'écosystème startup. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en 2017, si tu tapais pacte d'actionnaire ou investir en startup sur Google, très franchement, tu trouvais quasiment aucune information. Alors moi, j'avais la chance d'être déjà dans l'écosystème startup depuis longtemps, comme je te l'ai dit avec mon passage en journaliste tech chez Science et Vie, mais également banquier d'affaires spécialisé dans les sociétés tech chez Chausson Finance. Et donc, en fait, tout ça, je connaissais, j'avais un vernis culturel là-dessus. Juste, je pensais que ce n'était pas pour moi parce que j'avais vu mes boss de l'époque, j'avais vu tous mes mentors, etc. Et je voyais qu'ils investissaient des tickets genre 50 000, 100 000 euros dans une seule société. Et moi, en 2017, je n'avais pas du tout les moyens d'investir ça, évidemment. J'avais les moyens d'investir 1 000 euros, 2 000 euros, peut-être 5 000 euros. Et c'est tout. Et donc là, c'était très difficile à l'époque parce que finalement, il y avait quelques plateformes de crowdfunding sur lesquelles tu ne trouvais pas forcément beaucoup de deals qui m'intéressaient parce que tu ne trouvais pas beaucoup de deals tech digital. Il y a quelques exceptions. Hein. Par exemple, Revolut était au début sur une plateforme de crowdfunding. C'était un deal magnifique. Hein. Mais de manière très générale, il y avait plein de projets brick and mortar, donc de sociétés qui ne sont pas forcément très scalables. Donc, c'était difficile. Et en fait, comment j'ai fait moi? Bah en fait, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du service for equity, c'est-à-dire de dire à des start-upers, à des entrepreneurs, bah écoute, moi, je peux t'accompagner sur la construction d'un business plan, sur le développement commercial, sur la stratégie, ou bien siéger à ton board, etc. etc. Et si tu es OK, tu peux me payer moitié en cash, donc moitié sur facture, et moitié en equity, donc moitié en part de ta société. Et ça, ça a marché avec 2-3 boîtes. J'ai commencé à, du coup à être actionnaire de quelques boîtes sans débourser en fait d'argent, mais simplement en troquant mes services contre une partie de la rémunération. Au lieu de me faire payer tout de suite, bah, je me fais payer en equity, donc en part de la société. Donc ça, ça m'a permis de mettre un pied en fait dans ce monde-là et d'afficher un peu partout que bah, voilà, j'étais actionnaire de certaines startups. Donc, ça commence à intéresser quelques personnes, quelques entrepreneurs. Et parallèlement à ça, je commence à mettre quelques petits tickets de 1000, 2000, 5000, 7000 euros dans des sociétés qui sont autour de moi, des sociétés de copains de copains ou des sociétés où je m'entends bien avec le dirigeant, etc., etc. Donc, finalement, en 2017-2018, voilà, j'investis comme ça 6 ou 7 petits tickets qui me permettent d'amorcer en fait le jeu. C'est-à-dire de mettre un pied dedans. Et ça, je le recommande à tout le monde, de manière générale, et d'ailleurs pour tout dans la vie, il faut commencer pour apprendre, il faut faire pour apprendre. Et donc, moi, je pense que tu ne peux pas comprendre ce que c'est que l'investissement en startup si tu n'as pas investi au moins 3 ou 4 tickets, même s'ils sont tout petits, dans des startups pour suivre un peu ce qui se passe et comment ça se passe et le process, comment il se passe de A à Z.
Complètement, complètement. Et justement, Aujourd'hui, tu as investi dans plus d'une cinquantaine de startups à titre personnel, ce qui est quand même énorme, que ce soit sur des tickets de 1000, 2000, 5000 ou plus, que ce soit sur des tickets, des deals dans lesquels tu vas pouvoir avoir une partie d'equity en échange de ton expertise et ta contribution. Comment tu gères la diversification de ton portefeuille d'investissement personnel? Comment est-ce que tu équilibres le risque et les opportunités dans les différents secteurs ou les différents stades de développement des entreprises dans lesquelles tu te situes? Et finalement, comment tu arbitres tout ça au quotidien pour pouvoir mener à bien ton portefeuille vers la vision que tu as?
D'abord, de manière générale, j'ai toujours fait, enfin toujours entre guillemets, hein, depuis on va dire 10-15 ans, j'ai investi à la fois en immobilier, en société cotée, donc en bourse, et en non cotée, donc en start-up.
D'accord.
Ça, je pense que ça, d'abord, c'est important de diversifier sur un niveau un peu méta comme ça, parce que, par exemple, l'immobilier, c'est un peu l'inverse de mon métier d'investisseur en start-up, c'est-à-dire que c'est très sûr. L'immobilier, au pire, ça baisse de quoi 10, 20, 30%, mais vraiment au pire du pire du pire, mais ça vaudra jamais zéro. Donc, je recommande d'abord à tout le monde de faire un peu d'immobilier quand il en a la possibilité. Par exemple, si tu as un travail avec un CDI, en France, tu peux facilement emprunter de l'argent pour acheter un appartement et le louer. Je recommande de le faire le plus jeune possible parce que ça te garantit en fait de t'enrichir un petit peu chaque mois sans travailler, juste avec le revenu des loyers. Donc ça, c'est quand même c'est quand même reposant et garantissant pour l'esprit. Tu te dis ok, au pire, si j'ai foiré toute ma carrière d'investisseur, d'entrepreneur, etc., il me restera quand même quelques trucs en immobilier. Donc ça, c'est bien. Ensuite, les marchés cotés, moi j'achète un peu soit des fonds d'investissement en société cotée, soit des ETF. Et puis parfois, avant, j'investissais en direct dans les boîtes cotées, mais maintenant, je le fais plus, j'ai plus le temps. Et maintenant, pour en venir au sujet qui nous intéresse plus particulièrement, mon portefeuille startup. Sur le portefeuille startup, la diversification, d'abord, je trouve qu'elle est intéressante d'investir dans plusieurs pays. Je trouve que trop rarement, les investisseurs français sortent des frontières françaises. Souvent, ils investissent en France, voire même dans leur région. Et moi, je ne recommande pas d'investir uniquement dans ta région parce que si tu habites dans une région hors Paris, il y a assez peu de chances pour qu'il y ait assez de projets exceptionnels pour être diversifié. C'est-à-dire que quand tu investis en start-up, il faut investir au moins dans une vingtaine de boîtes, on va dire, d'accord, pour avoir une diversification. Or, je ne pense pas que dans la région bordelaise ou dans la région lilloise, il y ait suffisamment de très très belles boîtes, de très très belles pépites, en tout cas dans le digital, dans la tech, hein, dans le milieu que je connais et qui est le mien, chaque année pour pouvoir investir dans 20 boîtes. Je pense qu'il faut diversifier dans toutes les régions, dans les régions françaises et limitrophes et d'Europe, voire même au-delà si tu peux. Et AngelList, encore une fois, est une très bonne manière de se diversifier aux US, puisque tu as quand même accès à pas mal de sociétés qui sont basées en Californie et qui sont quand même soutenues par des gros fonds d'investissement prestigieux comme Andreessen Horowitz, Sequoia et plein d'autres. C'est quand même assez unique d'avoir une opportunité comme ça d'investir un ticket de $1000 à côté des fonds les plus prestigieux de la planète. Donc, il ne faut pas s'en priver. Moi, je pense qu'il faut vraiment diversifier géographiquement, US, Europe. Il faut aussi, moi, ce que je mise aussi beaucoup, c'est les pays émergents en start-up, donc l'Afrique, l'Inde. Ça, c'est évidemment des marchés beaucoup plus difficiles d'accès. Hein. Il faut du réseau sur place, etc. Moi, aujourd'hui, je l'ai. Donc, chez Supercapital, on fait bénéficier nos investisseurs de ces réseaux, ces opportunités d'investissement. Voilà, donc ça, c'est la première diversification, c'est vraiment géographique. Ensuite, une autre diversification, ça peut être selon les stades de maturité. C'est-à-dire tu peux investir dans des boîtes qui monétisent déjà, qui ont déjà des clients, et aussi dans des boîtes qui sont plus jeunes, qui ont juste un produit et qui n'ont pas encore de clients, ou même qui ont juste une équipe et qui sont encore en phase de recherche et développement. Comme ça, tu diversifies un peu les valorisations d'entrée. Tu vois, tu vas rentrer sur une boîte au tout début quand elle va être créée. Peut-être la valo, elle va être autour de 2 ou 3 millions, ou entre 1 et 3 millions. Et ensuite, si la boîte, elle a déjà un produit, elle a déjà des clients, etc., ça va monter un peu. Si la personne qui a créé la boîte est serial entrepreneur, c'est sa deuxième ou troisième boîte, il a déjà vendu les deux premières, bah clairement la valo elle va être plus haute, hein, elle va être à 5, 6, 7 millions. Et en plus de ça, si il ou elle sort d'un accélérateur très prestigieux comme le Y Combinator ou comme Hexa, bah encore, il va encore prendre 1 ou 2 millions de valo de plus. Donc tu vas arriver dans les 10, 12 millions, etc. Donc tu peux diversifier aussi en termes de valorisation de boîte, et tu peux éventuellement diversifier en termes de secteur d'activité. Là, alors il y a plusieurs écoles, hein. Il y a ceux qui investissent uniquement dans les secteurs d'activité et ou les métiers qu'ils connaissent bien, et il y a ceux qui panachent un petit peu partout. Nous, on panache un petit peu partout, du moment que dans le business model, il y a de la tech, il y a du digital. Et pourquoi ? Bah parce que, un, c'est ce qu'on connaît, et deux, c'est ce qui peut scaler. Aujourd'hui, une boîte digitale, elle peut scaler. Ça veut dire qu'elle peut aller chercher des revenus exponentiels et elle peut limiter ses coûts de manière linéaire. Et donc, si tu as tes revenus qui augmentent de manière exponentielle et tes coûts qui augmentent de manière linéaire, eh ben, évidemment, ton profit, il est gigantesque. Et donc, évidemment, c'est le genre de boîte que l'on recherche, puisque nous, c'est quoi, en fait, philosophiquement, ce qu'on fait, notre métier, c'est, en fait, c'est comme un marchand de biens en immobilier. C'est-à-dire qu'on entre dans une boîte à une valo la plus basse possible, et on va sortir d'une boîte sur une valo la plus haute possible. Ça veut dire j'achète bas et je revends haut. Ça, c'est comme un marchand de biens en immobilier, c'est exactement pareil. Et il faut bien distinguer, le marchand de biens, il loue pas ses biens. Il achète et il vend plus cher. Et entre-temps, il rénove ou il rénove pas. Le travail d'une foncière, c'est d'investir dans l'immobilier et de percevoir des loyers. Nous, on n'est pas une foncière dans les startups. On est vraiment un marchand de biens, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux startups de nous verser des dividendes. On ne leur demande pas de nous verser des loyers. On leur demande de performer et de valoir suffisamment cher pour un jour intéresser un acquéreur qui paiera très cher et sur lequel on fera une belle plus-value.
Complètement. Complètement. Et justement, pour donner des cas concrets à tout ça, en off, lors d'un échange, tu as mentionné avoir connu 3 échecs et 3 sorties plutôt réussies dans tes investissements personnels. Quelles sont les leçons que tu as tirées de ces expériences? Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de ces expériences? Parce que c'est souvent dans ces expériences-là spécifiquement qu'on apprend le plus.
Ouais, écoute, en fait, sur les échecs, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que... Alors, il y a plusieurs cas. Il y a un cas où j'étais rentré sur une valorisation beaucoup trop haute et en haut de cycle, en haut de marché. Et donc, finalement, la boîte était survalorisée. Et en fait, quelques années plus tard, ou 18 mois plus tard, quand elle est rentrée en bourse aux États-Unis, bah, en fait, le marché s'était retourné. Et donc, elle est rentrée sur une valorisation bien inférieure à celle sur laquelle j'étais rentré. Donc ça, c'est un premier learning, c'est de dire, si tu es investisseur early stage, tiens-toi à l'early stage. C'est-à-dire, moi, j'aime investir dans les startups jeunes. Je connais les startups jeunes qui ont entre 0 et 3 ans d'existence. Je ne suis pas du tout un spécialiste des boîtes qui ont 10 ans d'existence et qui vont bientôt rentrer en bourse. Ça a été ma grosse erreur de faire ça pour ce deal-là. Ensuite, les autres deals, je pense notamment à un deal sur lequel j'avais une forte confiance dans le dirigeant parce qu'il me paraissait très, très sûr de lui. Mais finalement, il faut savoir déchiffrer un dirigeant et de se dire, il a l'air sûr de lui, c'est bien, c'est un bon point, mais est-ce qu'il est juste sûr de lui pour me survendre sa boîte, ou est-ce qu'il est sûr de lui parce qu'il a un plan B, C, D? Et pour le coup, cet entrepreneur-là, auquel je pense, il n'avait pas de plan B, et il s'est retrouvé en fait un peu comme un con tout d'un coup sans cash, sans pouvoir relever d'argent, et pris à la gorge, et son produit n'était même pas fini. Et donc en fait, si tu veux, ça, j'avais même pas compris que c'était possible qu'il lui arrive ça, parce qu'au moment où j'ai investi chez lui, il m'avait dit avoir tout bordé avec l'agence de développement de son produit. Tout paraissait vraiment sur les rails. C'était, en fait, le problème de cette personne-là, c'est que c'était quelqu'un qui était issu d'un grand groupe. Et donc, dans un grand groupe, tu n'as jamais de problème de cash. En fait, tu as des problèmes juste de délai, de budget, de management, etc. Mais tu n'as jamais de problème de cash dans les grands groupes puisqu'ils ont un cash quasi infini. Et donc, en fait, il avait toujours ces mêmes réflexes de grande boîte et il était, je pense, très bon manager, très bon gestionnaire, etc. Sauf qu'il n'avait pas intégré un truc, c'est que quand tu es une startup, bah, en fait, tu es tout seul et ton cash, il n'est pas extensible. Et en fait, une fois que tu as levé un peu d'argent, que tu as emprunté un peu d'argent, etc., il faut faire tes preuves rapidement, parce que si tu ne fais pas tes preuves rapidement, mais en fait, plus personne va venir te prêter de l'argent et plus personne va vouloir investir chez toi. Et donc, tu vas mourir. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris avec cette expérience-là. Ça, c'est un peu les expériences négatives noires. Après, sur les expériences positives, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire que quand une personne m'est recommandée plusieurs fois par plusieurs personnes différentes qui l'ont déjà côtoyé, qui ont déjà travaillé avec lui ou elle et qui me disent « c'est une personne en laquelle on a toute confiance, il travaille bien, il lâchera rien, etc. Ben » là, tu peux être sûr que alors tu feras peut-être pas forcément un multiple de dingue, mais tu perdras pas ton argent quoi qu'il arrive. Avec une personne travailleuse, honnête et qui lâche rien, qui est résiliente, au pire, ce qui se passera, c'est qu'il arrivera à revendre à peu près la boîte et tu récupéreras à peu près ton argent. Voilà. Alors qu'avec une personne qui a une personnalité très différente, un peu vendeur de rêve, un peu à la limite de l'arnaque, et puis un peu show-off en disant « Ok, moi, je vais révolutionner tel secteur », et puis finalement, tu grattes et il n'y a rien derrière, bah, ça, c'est toujours les mêmes profils. C'est les profils qui, un an après, reviennent te voir en te disant bah, « Il faut que je fasse un bridge, il faut que je relève de l'argent parce que bah, j'ai pas réussi, machin », et ils vont revenir te voir 2 ans après et 3 ans après, et ça va toujours être la même histoire. Et en fait, ces gens-là, il faut couper, il faut être très froid dans son approche du réinvestissement, c'est-à-dire de se dire j'investis dans une boîte, quelle est ma politique de réinvestissement, si dans un an ou dans 2 ans cette boîte-là, elle a fait les milestones qu'elle avait dit qu'elle ferait, elle a atteint ses objectifs, elle a fait voire même mieux que ses objectifs, elle m'a envoyé des reportings régulièrement et elle a fait une belle croissance, etc., bah oui, je réinvestis. Et si cette boîte, elle a pas fait ça, eh ben non, je réinvestis pas. Et il faut être assez ferme sur sa politique de réinvestissement parce que tu peux vite te retrouver à financer des gouffres financiers. Et donc, en fait, ces gouffres, bah, c'est rarement bon.
Et justement, c'est extrêmement intéressant, cette notion de gouffre de réinvestissement, parce que finalement, tu vois, si je me mets dans la tête d'un investisseur, imaginons, j'ai posé un premier ticket, là, ça continue à avancer, on est plusieurs investisseurs, ça a l'air plutôt intéressant, les choses se passent bien, les gens ont l'air sérieux, mais finalement, ils n'ont pas quand même les résultats. Ils demandent davantage de cash. Ils n'ont pas forcément pris des mauvaises décisions ou en tout cas, pas les pires décisions par rapport à la première levée. Donc, tu te dis, je vais remettre un ticket. Finalement, comment identifier, comment faire pour ne pas se faire avoir dans ce cas de figure? Parce que aujourd'hui, pour toi qui as l'habitude, qui as la tête de Supercapital et qui a à titre personnel aussi investi dans pas mal de sociétés, mais qui a surtout la responsabilité de plus d'un millier d'investisseurs finalement qui vous font confiance et qui sont actifs, ça paraît presque évident et c'est normal de réussir à identifier les belles opportunités, des opportunités qui en sont finalement beaucoup moins belles, voire même cauchemardesques pour certaines potentiellement. Comment on fait finalement pour, dans ce cas de figure, celui qu'on a évoqué ou d'autres potentiellement, trigger et identifier là où il ne faut pas aller, alors que des fois on se dirait bah, c'est peut-être l'opportunité sur laquelle je dois sauter.
En fait, je pense qu'il faut être assez rigide dans sa politique de réinvestissement sur 2 choses notamment. 1, les chiffres, et c'est-à-dire les chiffres, les objectifs, les KPIs qu'il a atteints versus ce qu'il nous avait vendu. Est-ce qu'il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait? Ça, c'est un point très important. Ou est-ce qu'il a fait mieux? Ça, c'est encore mieux. Ou est-ce qu'il a fait beaucoup, beaucoup moins bien que ce qu'il avait dit qu'il ferait? Ça, c'est vraiment un critère important. Et ensuite, un faisceau un peu de signaux faibles. Comment est-ce qu'il ou elle s'est comporté? Est-ce qu'il ou elle a envoyé des reportings fiables, précis et réguliers? Ou est-ce qu'on n'en a pas entendu parler pendant 1 an ou 2? Est-ce qu'il a été réactif quand on lui a demandé des updates sur le business? Est-ce qu'il a réussi à faire un pivot intelligent avant de plus avoir de cash ou avant de heurter un mur? Tous ces signaux faibles, il faut savoir les analyser et il faut être assez rigide avec eux. Parce que sinon, alors après ça dépend un peu de quelle enveloppe tu as et à quel point tes poches sont profondes. Si tes poches sont très, très, très profondes et qu'il y a un business dans lequel tu crois beaucoup et qui galère en ce moment, bah oui, n'hésite pas à réinvestir. Et si tu penses fondamentalement que le business sur le long terme, il est très bon. Mais pour ça, il faut avoir une connaissance très fine de l'intérieur de la boîte. Et ça, c'est difficile quand tu es investisseur. Parce qu'en fait, quand tu es investisseur, on a bien compris, il faut être très diversifié dans plein de boîtes. Or, quand tu es dans plein de boîtes, c'est difficile d'être proche de toutes ces boîtes, de tous ces fondateurs. C'est facile de suivre 3, 4, 5, 6 boîtes. Mais nous, aujourd'hui, on a des centaines de boîtes en portefeuille. C'est très compliqué d'avoir une relation suivie et régulière et proche avec les centaines de dirigeants de notre portefeuille. Et d'ailleurs, on ne l'a pas. On a une relation comme ça proche avec une trentaine d'entrepreneurs de notre portefeuille parce qu'on a tendance à se concentrer soit sur ceux qui vont le mieux et pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, est-ce qu'on peut réinvestir chez eux, parce que évidemment c'est un marché où winner takes all, hein, presque, c'est-à-dire que les gagnants ils prennent la majorité des valorisations, et on va se concentrer aussi sur ceux qui ont des besoins ponctuels, relever de l'argent ou faire des introductions dans notre réseau. Et puis les autres, ben, finalement, on s'en occupera, un, quand on aura le temps, et deux, quand ils nous solliciteront.
Ok, je vois. Et l'élément aussi que je voulais voir avec toi, surtout, c'est typiquement pour un investisseur qui veut démarrer pour la première fois, est-ce qu'il y a des critères clés à consulter et c'est quoi la méthode ou l'approche que tu recommanderais pour évaluer le potentiel de croissance et la durabilité à long terme d'une entreprise qui est en phase de démarrage? Parce que, encore une fois, en phase de démarrage, c'est extrêmement difficile d'identifier quoi que ce soit, par se baser sur l'équipe, les convictions, leur capacité à pitcher la chose, le marché, le contexte, niveau d'innovation, mais des retournements de marché, il peut y en avoir plein. Ouais, typiquement, si on venait te pitcher par exemple une marketplace NFT en 2016 ou 2017, ça serait beaucoup trop tôt. En 2018, ça serait 2018-2019, ça serait l'opportunité incroyable. Et puis ici maintenant en 2023, c'est très difficile de lever. Et puis on va te dire il y a plus de volume, ça n'intéresse plus personne. Donc là, bon, c'est un cas extrême que je viens de te donner. Mais c'est un cas qui peut s'appliquer dans une moindre mesure pour certains dans d'autres contextes. Donc, j'imagine que le timing est aussi clé. Ça fait partie, j'imagine, des éléments de la méthodologie pour avoir la bonne approche, pour évaluer le potentiel de croissance et durabilité d'un investissement. Est-ce qu'il y en a d'autres, lesquels tu recommandes à ceux qui nous écoutent pour pouvoir au moins, pour ceux qui voudraient justement se lancer dans ce type d'investissement à l'issue de ce podcast, être un petit peu équipé?
Ouais, bien sûr. Ben, je pense que d'abord, si tu penses en tant qu'investisseur que la boîte en question, elle a développé un bon produit, ce produit, tu as envie de l'utiliser, tu l'utilises, il est bien et il correspond à ton persona, à toi et plein d'autres users, plein d'autres clients autour de toi qui te ressemblent, c'est déjà un très bon point. Ça veut dire qu'il y a une offre qui correspond à un marché. C'est le fameux product market fit. Donc ensuite, évidemment, il faut que le pricing soit bon, etc. Mais ça, c'est pas grave, ça peut se changer. Ce qui est important de regarder, c'est à quel point le marché est gros. Et en fait, il y a plusieurs games à jouer dans le monde de l'investissement en startup. Soit tu joues le game de la unicorn, la licorne. Donc ça veut dire, tu investis dans une boîte et tu penses qu'elle va prendre une part énorme d'un très gros marché et qu'elle va devenir gigantesque et qu'elle va lever plein de tours de table successifs. Ça, c'est un peu les beautiful unicorns qui brillent un peu, et ça, il y en a seulement quelques dizaines en France et quelques centaines aux US, versus les dizaines de milliers ou centaines de milliers de boîtes qui se créent chaque année. Donc ça, c'est très dur de les trouver. Si tu joues ce game-là, c'est un game généralement en 0 ou 1, c'est-à-dire soit tu vas faire un énorme multiple et gagner énormément d'argent, soit tu vas tout perdre parce que ça va se crasher. Donc c'est très, très, très risqué. Et si tu joues ce game-là, à la limite, ta valorisation de sortie, elle sera à 1 milliard ou plus. Et finalement, tu t'en fous un peu de à quel moment tu rentres. Est-ce que tu rentres à 10 millions, 20 millions, 50 millions de valo? Peu importe, en fait, parce que de toute façon, tu feras un gros multiple quoi qu'il arrive. Maintenant, si tu... Mais donc ça, c'est quand même très rare, hein. Il faut bien comprendre que c'est très rare. Maintenant, si tu joues un autre game, tu peux jouer un autre game qui est, tu te dis, en France, la plupart des boîtes, elles se vendent entre 10 et 100 millions. Donc, on est très loin du milliard, entre 10 et 100 millions. Donc, tu te dis, allez, en moyenne, elle va se vendre, je ne sais pas, dans les 30, 40 millions. Donc, si tu vises une exit à 30, 40 millions de valo, et que toi, tu veux faire un multiple, disons, de x 10, eh ben, il ne faut pas que tu rentres sur une valorisation plus chère que 3 ou 4 millions, d'accord, grand maximum. Donc, ça veut dire que dans un cas, la valorisation, tu t'en fous un peu, dans le premier cas, parce que tu sais que ça va aller très loin. C'est un mec ou une nana qui a une ambition énorme et qui ne lâchera rien tant que sa boîte ne vaudra pas un milliard ou plus. Et dans un deuxième cas, tu as des entrepreneurs qui sont un peu plus réalistes, un peu moins ambitieux, mais c'est pas grave, et dont tu te dis que ces gens-là, s'il y a une belle offre sur la table pour racheter leur boîte à 20 millions, ils la prendront. Et on les comprend, parce que 20 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc finalement, si tu te dis ces mecs-là, ils peuvent monter facilement une boîte à 20 millions et accepter une propale de l'acheteur, ça c'est très important aussi, c'est de savoir est-ce qu'il y a des acquéreurs sur ce marché, est-ce qu'il y a des boîtes qui sont capables de mettre ces sommes pour acheter une boîte, est-ce qu'il y a déjà eu des transactions là-dessus. Si c'est le cas, eh ben, tu peux rentrer dans la boîte sur une valo de 2 ou 3 millions et faire ton x10. Pourquoi je parle de x10 ? Parce que c'est généralement un bon benchmark à prendre, parce que sur 10 investissements en startup que tu vas faire, il y en a 6 où tu vas tout perdre généralement, il y en a 3 où tu vas à peu près récupérer ton argent, et il y en a une ou deux où tu vas faire des multiples intéressants de x5, x10, x20 ou plus. Et là, il n'y a pas de limite. Et donc ça, évidemment, c'est des multiples qu'il faut que tu ailles essayer de chercher. Et donc moi, ce que je conseillerais, c'est de mixer un peu les deux approches, c'est-à-dire de faire des gros paris sur des boîtes qui peuvent être énormes mais qui sont très risquées, et mixer un peu le risque avec des boîtes qui ne vaudront jamais un milliard, mais dont tu penses qu'il y a une forte probabilité pour qu'elles exitent à 20 ou 30 millions de valo. Et si tu es rentré sur 2 ou 3 millions, bah, tu fais ton x10 et tu es quand même assez content, tu vois. Et donc voilà un peu les deux games que tu peux jouer dans le early stage, et qui sont tous les deux très différents, et ça va nécessiter de regarder des choses différentes dans la boîte. La valorisation, dans un cas, elle est importante, et dans l'autre cas, elle n'est pas importante. Le marché, dans un cas, il est important qu'il soit très gros. Dans l'autre cas, s'il n'est pas très gros, ce n'est pas très grave. Parce que de toute façon, pour faire 20 millions sur un marché, il n'y a pas besoin qu'il soit gigantesque. Même si le marché ne fait que 100 millions et que tu as un produit excellent, bah, tu prends 20% du marché en quelques années, bah, ta boîte, elle vaut 20 millions et c'est vachement bien. Donc voilà, donc en fait, ça va dépendre aussi un peu de ta stratégie, de ton game, ce que tu vas devoir regarder dans chaque boîte.
Complètement. Et l'avant-dernière question que j'ai envie de te poser, c'est pour celles et ceux qui nous écoutent, encore une fois, comment est-ce que tu conseillerais aux personnes qui désirent rester informées et avoir accès aux informations pertinentes concernant le choix de leur investissement de l'être ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les informations, on en trouve partout. Maintenant, des pertinentes, des moins pertinentes, il faut savoir démêler le vrai du faux, démêler le pertinent de l'impertinent, etc. Et surtout, à l'issue de l'écoute de ce podcast, la plupart des gens peut-être se disent « Ah ouais, il y a un vrai potentiel, ça peut être extrêmement intéressant d'investir en start-up également dans le cadre d'une diversification de ses investissements et son portefeuille d'investissement, comme tu l'as évoqué, avec de la boîte côté, de l'immobilier, etc. Maintenant, je sais que c'est accessible. Je sais plus ou moins comment faire, je sais comment sélectionner les deals, mais comment je fais pour avoir accès à un deal flow intéressant tout au long de l'année et rester informé justement sur les potentiels investissements que je vais pouvoir faire.
En fait, ça, il y a plusieurs niveaux. D'abord, le premier niveau que tu peux faire quand tu te lances vraiment from scratch là-dedans, c'est de faire du réseau. Alors, soit tu as déjà un bon réseau et autour de toi, tu commences à dire que bah, tu es intéressé par investir dans des boîtes. Forcément, tu as des dossiers qui vont arriver à toi. Ça, c'est le premier truc. Mais aussi, évidemment, il va falloir développer ton réseau. Et donc, chacun va avoir sa stratégie pour développer son réseau. Certains vont rejoindre des communautés d'investisseurs comme la nôtre, comme Super Capital ou comme d'autres. Donc ça va leur donner des opportunités régulières d'investissement. D'autres vont vouloir se construire leur propre image en disant bah voilà, voilà moi ce que je peux apporter en plus de mon argent. Par exemple, aux US, il y a pas mal d'influenceurs et de célébrités qui ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux et qui disent, bah, moi les gars, moi j'investis dans vos startups, notamment en B2C, les startups B2C, parce que bah, je mets un ticket chez vous et derrière, je parle de votre boîte et elle explose et vous allez vendre beaucoup plus de produits avec moi. Et donc, c'est win-win. Donc ça, vous pouvez aussi vous dire, bah, moi, voilà ce que je peux apporter, un knowledge spécifique sur un secteur, un réseau très, très important sur un autre secteur, une manière de recruter ou de manager, etc. etc. Donc, y a un peu toutes ces possibilités qui s'offrent à toi, rejoindre une communauté, te différencier, émerger des autres investisseurs et surtout, je dirais, rester toujours un peu à l'affût dans tous les, comment dire, dans tous les milieux, dans tous les cercles. En fait, avant, tu l'as dit, effectivement, il n'y avait que des deals un peu élites et ces deals, ils se refilaient un peu sous le manteau et si tu n'étais pas dans le cercle, bah, en fait, tu n'étais pas au courant. Sauf que maintenant, ça, c'est toujours un peu vrai en partie, mais il y a aussi quand même plein de deals qui passent dans plein de réseaux, dans plein de groupes, et pas forcément que des réseaux d'investisseurs d'ailleurs. Tu vois, des réseaux business, ton réseau même personnel, dans tes amis, etc. Et en fait, il faut négliger aucune piste, parce que quand tu vois que... tu vois, nous, au sein de notre communauté, par exemple, on a... quelques-uns de nos investisseurs qui ont fait des très, très, très gros multiples de plusieurs milliers, hein, des 3000x, des 1000x, des choses comme ça. Et ces gens-là, finalement, quand tu regardes un peu comment ils ont eu les deals, bah, c'est parfois un coup de chance total, c'est-à-dire une relation à eux qui leur a présenté les fondateurs et ils ont investi, tu vois. Et donc, tu te dis qu'il faut négliger aucune piste. Quand tu vois ça, y a forcément aussi un peu une petite part de chance, mais si tu restes sérieux sur ta stratégie d'investissement en te disant voilà, j'investis des tickets de temps, j'en investis un certain nombre et de manière régulière et je m'arrête pas, et ben au bout d'un moment, forcément, statistiquement, la loi des grands nombres fait que tu vas avoir certaines sorties qui vont. Alors je dis pas tu vas peut-être pas faire des multiples énormes au début, tu vas peut-être pas faire des fois 100 ou des fois 1000, hein. Tu vas peut-être au début faire des fois 2, fois 3, mais ces fois 2, fois 3, ce qui est intéressant, c'est qu'ils te permettront de récupérer un peu de cash, un peu de liquidité, pour continuer à jouer le jeu, pour continuer à investir. Et c'est bien ça qu'il faut en fait faire, c'est continuer toujours à investir, ne jamais s'arrêter, parce jusqu'à ce que tu trouves en fait la pépite, on rêve tous en fait hein, de trouver la pépite sur laquelle tu feras fois 100 ou plus. Comme je disais, hein, dans notre communauté, on a deux, trois personnes qui ont fait des fois 3000, des fois 1000 sur des boîtes comme Back Market, qui sont très connues, hein, sur des boîtes comme Content Square, sur des boîtes comme Sorar, des boîtes comme ça. Et ils étaient là au tout début. Et ce n'étaient pas forcément des gens avec un énorme réseau, très introduit, etc. C'était des gens qui étaient au bon endroit, au bon moment.
Ouais, ouais, justement, c'est multiplié finalement. Les opportunités, créer de la sérendipité et puis jouer sur la loi des nombres pour pouvoir à terme trouver cette fameuse pépite qui va pouvoir te permettre d'avoir des multiples relativement intéressants, t'évoques fois 100,
exactement.
Fois 500, fois 1000, ouais, effectivement. Super intéressant, merci pour tout ce que tu nous as partagé Corentin, c'était vraiment hyper instructif, passionnant et surtout pédagogique et accessible à tous, donc c'était vraiment mon objectif en t'invitant sur ce podcast, c'était de rendre l'investissement dans les startups compréhensible et accessible à tous. Un précédent épisode, également, on en a parlé très rapidement avec quelqu'un qui a commencé par investir dans les parkings et qui aujourd'hui est présent dans différents groupes de business angels et qui a investi dans pas mal de startups.
Là, on bien sûr, Alexandre.
Exactement, ouais. Exactement.
Ah oui, il est chez nous aussi, ouais, je le connais. Ouais, ouais.
Ah bah, parfait, tu vois. Donc tu vois, on avait rapidement évoqué ce sujet au travers de deux, trois questions. Là, on a pu en faire un épisode dédié. Donc, je te remercie. Également, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous aurez bien évidemment les liens en description, comme à chaque fois. Et si vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que je t'en ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir en partageant cet épisode, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme de podcast préférée. L'avis également sur votre podcast, votre plateforme de podcast, pardon, très important. Et puis, interagir sous le post LinkedIn lié à cet épisode. Corentin, j'ai une dernière question à te poser. La question que je pose à toutes les personnes qui passent sur le podcast Le Déclic, est-ce qu'il y a un déclic un élément qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi. Ça peut être personnel ou professionnel, ça peut être une anecdote, une simple phrase, une situation positive ou moins positive. Bref, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Bah oui, en fait, moi, à la base, au début, je viens pas d'un milieu où ma famille a un très grand réseau, ma famille n'est pas dans le business, etc. Et donc, en fait, quand je côtoyais au début tous ces grands entrepreneurs, ces grands investisseurs, je les voyais un peu comme des surhommes et des surfemmes, des gens, des sortes de demi-dieux. Je me disais, ils sont pas comme nous, etc. Et en fait, maintenant que je les côtoie tous les jours de l'année, je les connais très bien, j'en ai plein autour de moi, etc. Je fais partie de cet écosystème hein, à fond. En fait, je me rends compte que tous ces gens-là, ils sont exactement comme toi et moi et comme le voisin d'à côté. En fait, ils ont rien de plus ou de moins que nous. On a exactement, les mêmes opportunités. Simplement, eux, ils savent les saisir peut-être un peu mieux que certains autres. Donc, en fait, il faut surtout pas avoir peur d'aller aborder n'importe qui, quel que soit son statut et quelle que soit sa richesse et sa réussite, pour s'en inspirer. Et vous verrez que, en fait, si vous vous en inspirez et si vous les traitez un peu d'égal à égal, vous allez apprendre plein de choses.
Merci, Corentin.
Merci à toi, Alec.